C'est une révolution.
Je vous ai compris.
I have a dream.
Vive la nation !
Vive la nation !
Rentre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
That's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir ! Il faut reste groupir ! Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit groupir.
But alors, you are French ?
Et toc, remonte ton slibard, Lothar.
Monsieur ! Un sarrasin !
Français. C'est moi, Churchill, qui vous parle.
Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube. Car l'aube viendra.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.
Ça commence maintenant.
Maintenant.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et vous l'avez compris, vous écoutez la percée de l'histoire pour sa 7e émission spéciale Portrait d'Histoire et ce soir on sera en compagnie de Pascal Mariette, donc vous allez en apprendre un petit peu plus sur lui et sur ce qu'il fait dans quelques instants. Pour m'accompagner, je serai évidemment avec l'équipe habituelle, Salouane. Bonsoir Salouane.
Bonsoir,
comment vas-tu?
En même temps. Chips.
Et comment tu vas du coup?
Ça va très bien.
Parfait. Également Thomas, comment tu vas mon petit Thomas?
Bonsoir, ça va super ce soir.
C'est vrai, t'as l'air en forme là.
Oui, ça va. Bon, bah, j'ai rien fait de la journée, donc bon, au moins pendant l'heure où je sors, être en forme quoi.
Ouais, c'est bien.
La
seule heure d'activité de la journée. Et puis Pascal Mariette, donc, bonsoir Pascal, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller municipal de la ville du Mans à l'animation et la valorisation du patrimoine, vous êtes aussi technicien au bâtiment de France et membre de l'équipe de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de Sarthe. Vous êtes passionné notamment d'histoire et d'archéologie, vous habitez à Fresnay-sur-Sarthe.
Ah non, j'habite plus
Vous avez habité.
Je suis plus frénétique.
Vous êtes maintenant Manceau.
Je suis Manceau maintenant depuis 11 ans, mais il est vrai que j'ai vécu très longtemps à Fresnay-sur-Sarthe.
Et donc, vous êtes, on vient de le dire, passionné de patrimoine, d'histoire. Vous œuvrez dans le domaine depuis un bon nombre d'années.
Ouais.
C'est vrai. Et peut-être, justement, remonter, on va commencer par ça, remonter par votre parcours. Quelles études vous avez fait?
Alors, moi, j'ai fait des études. Alors, c'est assez amusant parce que sorti de troisième, je voulais être architecte.
D'accord.
Par la notion architecte. Puis évidemment, l'école d'architecture, mon père, ça lui faisait un petit peu peur. Mon père était prof à Funay, il m'a dit, fais un BEP bâtiment génie civil, tu vas voir, tu vas commencer à dessiner, tu vas voir si ça t'intéresse. Puis il ne me voyait pas partir en interne pour faire un bac F4, donc j'ai fait mon BEP, bâtiment génie civil. Ça a super bien marché, et donc je suis passé directement en première après, donc j'ai perdu une année, mais qui a été bénéfique, pour faire un bac F4 à l'époque. F4, c'était bâtiment génie civil. Donc, j'ai fait mon bac F4 à Laval, en interne. Et puis, à la sortie de ce bac, j'ai fait des études, pas tout à fait d'architecture, mais d'urbanisme. Parce que l'urbanisme, en fin de compte, c'est plus large. Moi, je dis toujours, l'architecte, lui, en fin de compte, en France, un architecte, il fait des objets. Il conçoit un objet d'art. Mmh. Malheureusement, ils déchantent beaucoup quand ils arrivent sur la réalité des choses. Ouais. Et puis les urbanistes, ils font des étagères pour mettre les objets. Enfin, je blague un petit peu, mais... Et ce que je trouve dommage, c'est que l'urbaniste et l'architecte ne sont pas liés ensemble. Un lien, quand les deux sont liés, je trouve que ça fait de meilleurs résultats, parce qu'on a des ensembles, des quartiers qui sont plutôt dans une certaine unité. Moi, ce que je critique beaucoup aujourd'hui en France, c'est que vous traversez des rues. Alors, il y a des rues intéressantes, parce qu'au moment, c'est très flagrant. Hein, vous allez avoir la maison de la fin du 19e siècle, vous avez la maison des années 30, vous avez la maison des années 50, la maison des années 70. Aujourd'hui, c'est la maison cube noire et blanche chez Castorama. Mais vous la trouvez partout en France, qui n'est pas une maison forcément intéressante, parce qu'elle n'est pas contemporaine, comme on savait la faire des années 50. Donc, ce qui fait qu'on a des choses un petit peu disparates. Et souvent, l'histoire de la rue, si vous la prenez au début de la rue, moi, j'habite dans une rue comme ça. Vous commencez en bas, c'est la fin du 19e. Puis, au fur et à mesure, vous montez la rue, vous avez toutes les maisons avec les époques qui s'alignent. C'est assez rigolo. Mais bon, c'est assez rigolo, mais c'est l'état de la France, c'est des quartiers de toutes les villes de France. Mais c'est toujours un peu dommage qu'on n'ait pas eu une vision d'ensemble ou un règlement d'ensemble. Alors, ce qui marche bien, c'est souvent dans les villages anciens. les villages anciens, parce qu'ils ont une âme, une unité. Alors après, on les appelle les plus beaux villages de France.
Oui.
Vous prenez Asnières-sur-Vègre, c'est toute une unité de maison, avec un certain charme, où on aime bien vivre. Vous allez en Angleterre, il y a une unité de maison. En Angleterre, attention, ils ont fait du massacre aussi.
Oui, sans doute.
Mais c'est ce qui fait généralement aussi la valeur des maisons aujourd'hui. Vous êtes dans un quartier entièrement 19e, regardez au Mans, les maisons ont de la valeur. Vous avez un quartier disparate, bah, ça perd de la valeur.
Et puis ça, c'est un véritable enjeu aussi, de, j'imagine, pour les mairies, de devoir conjuguer avec des bâtiments qui sont peut-être protégés historiquement et devoir parfois réaménager la ville. Ça, c'est des sujets aussi avec des géographes.
Alors après, c'est tout le règlement aussi des documents d'urbanisme. Mmh. Aujourd'hui, les gens veulent de moins en moins de règlements, mais s'il y a moins en moins de règlements, il y a moins en moins de qualité. Et la qualité, ce n'est pas forcément le plus cher. Il y a des surenchérissements, des fois, qui sont plutôt kitsch et qui ont coûté cher aux propriétaires, mais le résultat est un peu pauvre. Et des fois, la simplicité aussi peut être bien, et c'est une ligne, c'est un dessin, et on l'apprend avec le temps, et voilà. Mais j'ai commencé donc à faire de l'urbanisme.
Et,
voilà,
et petit à petit, le goût de l'histoire, comment...
Alors l'histoire, même, je trouve que c'est lié, parce que quand on s'intéresse à l'histoire d'une ville, comment elle évolue, l'urbanisme, bah, c'est comment est née la ville. Alors au moins, c'est intéressant, c'est... Je dirais 5000 ans d'histoire, puisque ça commence avec le menhir. Mmh. Mais l'époque romaine a laissé des tracés de rues. Et la plupart des grandes villes de France, Tours, c'est clair. C'est Tours, c'est une grande ligne. Indécomanus, c'est, c'est vraiment une ligne à Cardo. C'est vraiment les deux lignes fortes et qui sont toujours en place. Au Mans, c'est un peu la même chose. C'est un petit peu plus complexe parce que la ville romaine était plus complexe. Mais on retrouve à peu près les mêmes lignes. L'histoire de la ville, c'est 2000 ans d'histoire. 2000 ans de, où on bouge les rues, les. Mais on retrouve ces tracés. Et ça, c'est formidable.
Et justement, là, vous avez donc décidé de vous engager politiquement sur la mise en valeur de ce patrimoine. Quelles sont concrètement vos missions en tant que conseiller municipal pour mettre en valeur et animer ce patrimoine?
L'idée, c'est de... D'abord, je me suis mis à me chercher parce que bah, j'étais plutôt professionnel dans ce domaine.
Ouais.
Et donc, l'idée, c'est vraiment de dynamiser, c'est-à-dire d'enrichir ce patrimoine, le mettre en valeur, le respecter, c'est déjà la première étape. Alors, il y a beaucoup de choses. La ville du Mans a un secteur sauvegardé, où vos studios sont dedans. Et ce secteur sauvegardé, il remonte à 1974, le tracé. Le tracé et le règlement. Le règlement, c'est une autre époque. C'est peu de choses, les gens ne comprennent pas trop comment restaurer. Et puis, ce règlement a été fait à l'époque où on restaurait, je dirais, avec ce qu'on appelait à l'époque le xyla décor, c'est-à-dire on mettait toutes les poutres en marron et en bref, on a commencé à restaurer ce qu'on appelait à l'époque le Vieux-Mont, maintenant la cité Plantagenet, mais sur des bases qui étaient celles de cette époque-là. Mais malheureusement, ce règlement n'a pas bougé depuis près de 50 ans, pratiquement 50 ans, 48 ans. Et donc l'idée, c'est de renouveler ce règlement, c'est une grande priorité de la ville, agrandir le secteur sauvegardé, parce qu'il avait été restreint à l'époque, ce secteur sauvegardé, parce qu'on avait juste gardé l'enceinte romaine et son intérieur. Parce qu'on oublie qu'en 1974, il y avait un gros projet sur le Mans, c'était de faire rentrer l'autoroute dans le Mans, entre le mur romain et la rivière. Donc on avait commencé à abattre toutes ces maisons, ces quartiers, les anciens quartiers de tanneurs, de tisserands, des quartiers, la place de l'hôpital, etc., qui disparaissaient. C'est triste, mais c'est vrai qu'on voyait, depuis la rivière, on distinguait très mal à l'époque le mur romain, on voyait juste quelques tours dépasser. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une autre vision, mais tout ce secteur-là était quand même voué à la démolition, et on oublie qu'il était prévu une grande bretelle d'accès qui arrivait rue Triget, pour rentrer dans le Mans. Donc, vous imaginez le tableau, une grande bretelle en béton qui est rentrée au-dessus. Donc, Robert Jarry arrive en 77, et heureusement...
Ça ne se fait pas.
Ça ne se fait pas, mais le plan de sauvegarde est en place, et c'est avec celui-là que l'on va vivre pendant des années. Et là, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a d'autres quartiers qui pourraient être intégrés à la cité Plantagenet. Je pense en particulier la rue du Lionel Royer, qui va jusqu'à l'abbaye Saint-Vincent. L'abbaye Saint-Vincent est un monument historique remarquable. C'est une abbaye royale. Mmh. C'est un magnifique monument. Il y a Montesquieu, qui n'est pas aussi dans le secteur sauvegardé. On pourrait peut-être intégrer, j'en sais rien. Ce que je dis là, attention,
C'est hypothétique.
C'est des possibilités. Il y a un site inscrit remarquable qui est les Jardins de Tessé. Hein. Et puis, on a aussi des quartiers assez intéressants. Je pense à la rue des Ponts-Neufs. Qui ne fait pas partie, où il y a des belles maisons aussi Renaissance, lever la tête au-dessus des bars, il y a des choses intéressantes, très intéressantes, la rue de la Barillerie, où il y a des monuments. Il y a aussi, tout simplement, il y a l'école des Beaux-Arts. En dessous, on a les thermes romains. Et tout ça ne fait pas partie du plan de sauvegarde.
Donc, à possiblement intégrer...
Avec un règlement plus explicite, permettant certaines choses, certaines souplesses, ou pas de souplesse, mais surtout garder ce patrimoine pour les générations futures. Ouais. On nous a laissé un patrimoine, je dis toujours, pensez à le restituer aussi au suivant, parce que c'est toujours un peu dommage quand je vois des gens qui achètent des maisons du 15e siècle pour y mettre des fenêtres PVC.
Donc
ça, c'est un des grandes priorités de la ville, c'est de renouveler. Donc c'est un gros travail de plusieurs mois, plusieurs années, je dirais. Et voilà, et puis aussi redynamiser en remettant aussi des aides à la restauration, ça c'est important, avec des contrats avec la région et le département. Les petites communes le font très bien. Alors moi j'ai une petite histoire aussi, parce que j'ai été élu à Fresnay-sur-Sarthe, on parlait de Fresnay tout à l'heure, et j'ai été le premier élu à Fresnay en 1995 pour déléguer aux petites cités de caractère. Fresnay venait d'être petite cité de caractère, donc ça m'a beaucoup aidé pour voir comment on a mis en place aussi à Fresnay le travail pour inciter les gens à faire des travaux correctement et ne pas louper leur restauration de maison, en évitant qu'ils regardent à l'époque les émissions d'M6 avec la restauration d'Amido.
Oui, Valérie
Amido. De la déco, mais qui n'est pas un travail forcément. Regardez ces émissions avec un retour, vous verrez, c'était quand même pas terrible.
Mais Fresnay-sur-Sarthe, en plus, je crois qu'elle a été classée parmi les plus beaux villages de France.
Oui, j'étais dans les six premiers.
Ils ne sont pas plus beaux villages de France,
plus beau.
Mais ils sont passés dans l'émission de Berne.
Oui.
Ils ont eu la chance d'être choisis en deuxième place.
Ah, c'était deuxième place. Deuxième.
Oui, c'est un beau travail. Moi, j'étais très content, puisque pour continuer ma carrière, je suis rentré... j'ai passé des concours.
Oui.
Et j'ai passé un concours en particulier, celui de l'équipement à l'époque, ça s'appelait l'équipement, qui est devenu après la DDT, la Direction de Développement plutôt Durable, Direction des Territoires. Et donc, je suis rentré là, et moi j'avais une mission, j'étais adjoint en subdivisionnaire, et donc on avait encore à l'époque des missions de maîtrise d'œuvre. Et donc ces missions de maîtrise d'œuvre m'ont permis surtout de restaurer beaucoup de centres-bourgs du Nord-Sarthe, puisque la subdite Fresnay, j'étais dirigé vers la subdite Fresnay, et donc à un moment donné, parce que j'ai eu une carrière un peu plus longue, je suis passé par Paris avant, mais bon, Montpellier, etc. Mais à Fresnay, ça m'a permis de faire de la maîtrise d'œuvre et faire les aménagements, essentiellement les principaux aménagements de la ville de Fresnay en particulier, ce qui a permis de faire les enfouissements de réseaux, de mettre des aménagements de rue dans mon quartier, le quartier du Bourgneuf, etc., que l'on voyait donc effectivement dans l'émission. Je suis toujours ravi quand on peut aménager aussi le socle, pour mettre en valeur ce patrimoine. Je trouve qu'ici, dans la cité Plantagenêt, les gens, il y a des assos et tout, ils ont vraiment le feeling, quoi. C'est vraiment facile, beaucoup plus facile qu'à Fresnay, où les gens disent, je suis chez moi, je suis pas libre de faire ce que je veux. Mais essayer de les sensibiliser, c'est toujours un petit peu dur. Je pense qu'on y est arrivé au bout d'un moment. Et je pense que le résultat est tout à fait réussi.
Eh ben merci beaucoup. On va peut-être marquer une petite page de pause musicale avec, on va s'écouter, c'est Little Eva, The Locomotion. Bon, vous connaissez mon anglais. The Locomotion, mais qui est une très belle chanson et qui met un petit peu en joie. Donc c'est parti. Little Eva, The Locomotion.
Le moment.
Everybody's doing a brand new dance now. We'll be right back.
qui est là?
La percée de l'histoire.
Tiens!
Mais c'est pas vrai!
Ah, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi?
Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Ah ouais?
Ouais.
En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'Histoire.
Eh ben, mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3, FM Le Mans ou radioalpa.com et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire pour l'émission Portrait d'Histoire en compagnie de Pascal Mariette qui nous parlait un petit peu de toutes les missions, notamment de sauvegarde du patrimoine, d'aménagement du patrimoine et peut-être rentrer maintenant dans les détails, oui, de ce que c'est sujets. Concrètement d'être technicien des bâtiments de France.
Métier, oui, c'est plus
qui est votre métier, oui.
Technicien des bâtiments de France, déjà, c'est la mission de l'architecte des bâtiments de France sur le terrain, c'est de protéger les abords des bâtiments. Alors, en 1913, il a été fait une protection d'office, c'est-à-dire dès qu'un bâtiment était classé ou inscrit au monument historique, on faisait un rayon de 500 mètres autour et on protégeait tout ce qui était à 500 mètres. Ce qui fait que, aujourd'hui encore, tout ce qui est à l'intérieur de ce rayon de 500 mètres, si vous habitez dans ce rayon, eh bien, vous envoyez si vous déposez un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux, si vous faites des travaux sur votre maison, vous déposez effectivement à la mairie, mais le maire a obligation de consulter l'architecte des bâtiments de France, qui donne un avis. Alors, si cet avis est fort, c'est-à-dire que le maire n'a rien à dire, si par exemple votre maison est en co-visibilité avec le monument, c'est-à-dire je suis dans la rue, je vois votre maison, je vois le monument, donc là, c'est l'architecte des bâtiments de France qui a plein pouvoir. Après, si c'est vraiment pas trop lisible, les élus peuvent déroger un peu à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Mais quand un élu met le doigt dedans, dans l'engrenage, au moins il ne le fait pas, il y a beaucoup de mairies qui ne le font pas. Si l'élu veut aller contre l'avis de l'architecte, il peut, mais il commence à mettre le doigt. C'est-à-dire s'il permet à quelqu'un de faire quelque chose,
ouais, après tout le monde
va demander, et là il va être vite débordé, et puis surtout le résultat risque d'être catastrophique, et ça peut lui être contesté. Quoi, monsieur le maire, vous avez autorisé cela? Donc, généralement, les gens suivent l'avis de l'architecte des bâtiments.
Donc, concrètement, si j'habite dans le Vieux-Mans, je veux changer mes volets une maison historique.
C'est monsieur Gauthier pour le Mans actuellement, oui, qui a plein pouvoir, parce que dans le règlement, si vous allez chercher le règlement du PLU, le plan local d'urbanisme, bien vous allez vite vous apercevoir que tout le règlement, c'est sans objet, tout simplement. Parce que c'est l'architecte du bâtiment de France qui décide. Généralement, c'est un terrain de jeu. La cité Plantagenet, un secteur sauvegardé, il n'y en a qu'un vraiment dans la Sarthe. Donc c'est vraiment un terrain de jeu pour l'architecte. Et généralement, on se déplace, on va voir les gens, on discute en amont. Et c'est vraiment un travail de terrain. Je crois que tous les habitants de la cité Plantagenet connaissent l'architecte du bâtiment de France, ou me connaissent.
Oui, parce que forcément...
On intervient, et généralement, c'est un dialogue très sain, et les gens... De toute façon, quand vous habitez dans une cité historique, vous avez déjà fait un choix.
Oui, c'est ça. Mmh.
Donc, vous ne voulez pas vous louper, vous ne voulez pas gâcher l'espace. Et vous savez que... Et généralement, toutes les restaurations sont de très, très bonne qualité.
Oui, alors,
dans le secteur sauvegardé, il reste des maisons, encore beaucoup de maisons restaurées, ce qui fait tâche un petit peu. Et ça, nous, notre rôle, mon rôle d'élu, là, maintenant, ça va être vraiment d'encourager ces gens à restaurer les dernières maisons. Vous avez encore quelques maisons avec des crépis en ciment ou avec des pans de bois non restaurés ou des pans de bois dissimulés. Il y a plein de choses à revoir, ou des boutiques mal agencées, ou avec encore des trucs qui remontent aux années 70, mais c'est quand même très peu. D'année en année, vous regardez même dans la grande rue où vous êtes, il y a encore des travaux dernièrement où on a fait une très belle découverte, pas très loin de la radio. 101 ou 102, je crois.
Oui, les échafaudages.
Tout à fait, on a retrouvé de très, très beaux pans de bois derrière.
Voilà. Wow.
Pour pouvoir assister et aider très vite ces gens à restaurer leur maison.
Oui, parce que du coup, il y a un accompagnement vraiment avec les... Oui. Heureusement, oui, pour faire les
alors,
choses
en bas.
On ne
peut pas le faire sur tout le département, à savoir que sur le département, il y a plus de 400 monuments. 400 monuments, ça veut dire plus de 400 rayons. Et donc, il est vrai qu'au service, il arrive... Je ne sais plus combien de milliers de dossiers par an, et que l'on traite. Et évidemment, on ne traite pas de la même façon si vraiment vous êtes auprès. Tout dépend aussi de votre maison. Si c'est une maison des des années 30, on va dire attention, gardez le cachet des années 30. Si vous avez une vieille maison rurale, gardez le cachet rural. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut faire avec une maison rurale une maison de lotissement. C'est un peu loupé. Et puis aujourd'hui, il y a des modes. Et les menuiseries noires, c'est cramé avant l'heure. C'est incendie, c'est juste... C'est préparé pour l'incendie, ça, c'est un peu terrible. Je trouve que les gens ont tendance à noircir l'espace. Alors, on est très critique aussi sur les accompagnements de la maison, c'est-à-dire les clôtures, etc. Faire des clôtures noires en plein réchauffement climatique. Oui. Vous mettez du végétal devant une clôture noire, mais elle crève.
Ah oui.
Vous lui offrez un four solaire.
C'est n'importe quoi.
Tout ça, oui, mais on
non, mais
voit
faut conjuguer
regardez,
avec...
Regardez,
ouais.
Des murs noirs en rez-de-chaussée dans une rue, c'est lugubre l'hiver. Monsieur Gauthier, l'architecte des bâtiments, c'est toujours l'architecture, ça doit être joyeux. On est là pour vivre dans une maison de façon joyeuse, pas d'une façon morbide. Il y a des maisons qui ressemblent à des mausolées.
La famille Adams.
Je ne rigole.
La famille Adams.
Je ne rigole que trois fois par jour.
Ouais, voilà. Donc je mets des.
Sans blaguer. Moi, au-dessus de chez moi, je ne vais pas cafeter à l'endroit où c'est, mais
voiture
noire. Bâche noire, ouais. Goudron devant, c'est-à-dire terrain complètement imperméabilisé.
En plus.
En plein réchauffement. On va imperméabiliser les terres, c'est-à-dire en gros, les gens ont fait une erreur de casting. Pour nous, c'est en gros, ils auraient dû habiter dans un appartement, si on ne veut pas de nature. Et donc, on encourage aussi, dans nos avis, à ce qu'il y ait un accompagnement de nature, de végétaux, qu'on fait une maison. Et c'est vrai que malheureusement, on ne le voit pas au Mans. Au Mans, si vous allez sur Google Earth, c'est assez intéressant. Vous allez voir que les arrières, les jardins sont assez verts. Les gens ont vraiment peaufiné. Et plus vous éloignez à la campagne, plus les lotissements en particulier sont d'une pauvreté. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Vous allez trouver, moi je déconne beaucoup là-dessus, excusez-moi l'expression, mais vous allez trouver la piscine gonflable, dégonflée tout l'hiver, le trampoline bancal, le chalet d'Heidi, vous savez le petit chalet bancal
pour mettre la tondeuse.
Voilà, pour mettre la tondeuse. Puis après un coup de vent, ça ressemble à rien souvent. Parce que tout ça, c'est à la vue de tout le monde. Vous rentrez dans certains villages, vous avez des lotissements entiers qui sont comme ça. Vous avez l'impression de rentrer, je ne vais pas dire favela, mais c'est pas...
C'est triste.
Pas très beau. C'est triste à voir.
En tout cas, c'est triste.
Beau,
hein.
Et si c'est pour vivre ça, ce n'est pas très intéressant.
C'est déshumanisé. Voilà. Cherchez le mot.
Mais comment lutter contre... Enfin, quel pouvoir d'action
Alors, le pouvoir de l'action de l'ABF, c'est justement de protéger ces monuments. Oui. Alors après, évidemment, truc terrible à faire, c'est quand on dresse un procès-verbal qui procède. Alors généralement, on essaye toujours avec le maire, les maires des communes, ou le service urbanisme qui suit de régler le problème avant.
Mais pour pas en arriver jusqu'au
procès-verbal.
À l'issue fatale.
Personne n'y gagne, quoi.
Et alors, pareil pour les devantures commerciales. Une devanture commerciale, c'est quelque chose de simple. On a de plus en plus de gens qui jouent avec ce fameux produit qui s'appelle le Dibon. On va mettre des photos, ça va ressembler à rien, c'est super chargé. Vous avez des vitrines, vous avez un écrit pas possible, des photos de tout, de la bouffe en particulier, c'est pas très... Alors, moi je peux adorer le kebab, mais le jour où il y a un kebab qui se fera avec un joli look, qui ressemblera avec un joli intérieur, qui peut être justement, qui peut rappeler les pays où on fait les kebabs, il aura tout gagné. Ce qui est souvent renvoyé, c'est quelque chose de très négatif. Et je suis persuadé qu'ils perdent des clients. Je l'ai souvent dit à certains commerçants en disant, mais faites pas ça. Si vous voulez gagner en génération, en clientèle, avec des différentes générations, si vous voulez gagner en appel, c'est souvent la simplicité qui fera votre bonheur. Quoi.
Qui attire
c'est vrai,
largement.
C'est vrai qu'en ce moment, les kebabs, ils ressemblent plus à des cantines.
Le
carrelage blanc, les chaises.
Alors, c'est culturel. Moi, j'adore les pays arabes. Hein, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et j'ai beaucoup voyagé. Bon, c'est vrai que ça rappelle ces pays où on a besoin de fraîcheur.
Ah, le carrelage, oui.
Et le carrelage permet cette fraîcheur sur les murs, etc. Et puis c'est aussi sanitaire, c'est propre. Mais c'est une culture... Moi, ça peut être très joli, un intérieur. Mais il faut que ce soit vraiment dans l'ambiance. Moi, je veux me retrouver vraiment comme là-bas.
Une immersion.
Oui, quitte à le faire, autant faire tout.
Là, qu'il n'y ait pas, ouais. Et il faut que ça me rappelle mon voyage. Quand je rentre dans quelque chose où le restaurant est plutôt autre que ce qu'on représente dans la nourriture française, j'aime bien me plonger dans ça.
Une immersion totale.
Et je crois qu'il faut moi, je leur dis, il faut aller jusqu'au bout. Mais malheureusement, c'est aussi, ce que je voulais dire par là, c'est surtout une rue peut vite s'abîmer. Là, on a fait un travail avec l'UDAP, justement, sur des rues, la rue des Ponts-Neufs. On a mis beaucoup de couleurs parce que depuis un moment, on défend le noir et le gris. Parce que tout simplement, quand vous avez une rue grise, noire, machin, bah, vous ne distinguez pas déjà une boutique. Vous ne la voyez pas. Dans... Si les pharmacies sont noires, tout le monde est noir. Je vois bien. Une pharmacie, dans le temps, on disait elle est verte. Bah oui, c'est la pharmacie là-bas.
Ben, oui.
Le boucher, il était rouge.
Et rouge, oui.
Ça peut paraître couillon, mais c'est une indication culturelle. Et il est vrai que quand il y a de la vie, quand il y a de la couleur, comme la rue des Ponts-Neufs, qui était, il y a 15 ans, faisait un petit peu effet coupe-gorge, aujourd'hui, on a vraiment envie de s'y installer. C'est joli, c'est joyeux, c'est intéressant. Et puis, il y a d'autres endroits aussi dans la ville. Mmh. Quand vous avez une rue de Bolton, c'est Jean-Claude Boulard qui s'était fâché il y a quelques années parce qu'il s'était rendu compte que la rue de Bolton devenait grise, et repensait à moi, etc. C'est devenu un peu triste. C'était pas bien joyeux. Une galerie marchande, si la galerie marchande d'Auchan ou de Carrefour est plus joyeuse, le commerce de ville a tout faux.
Forcément.
Tout faux. Et donc, c'est en mettant de la couleur, vous pensez de plus en plus en travaillant avec la couleur, eh bien, vous allez voir, les gens retrouvent une boutique, l'identifient. On identifie un produit, on identifie une façade. Et en plus, si c'est la ligne claire, comme dans Tintin, généralement, on rentre. Il y a eu aussi un autre effet très mode, c'est de mettre des autocollants partout sur les vitrines, c'est-à-dire l'effet sex shop, j'appelle. Hein, j'appelle ça sex shop, c'est-à-dire on ne sait plus ce qui se passe à l'intérieur. Ben, il y a beaucoup de gens comme moi, qu'est-ce qui se passe là ? Je vais voir. On n'est pas sûr. Bon, moi, je suis peut-être plus hardi que certains, mais il y en a qui ça ne donne pas envie d'y aller. Un restaurant qui est couvert ou la vitrine est couverte, si on ne sait pas où on va s'asseoir, où est-ce qu'on va et quelle est l'ambiance, vous ne rentrez pas, vous ne poussez pas la porte. Par contre, à côté, vous avez une boutique très lumineuse où on sait où on va s'installer, vous poussez la porte. Et ça, c'est du faut presque rappeler notre rôle aussi, et de rappeler ce qu'est un commerce. Le but d'un commerce, c'est d'être vu.
Donc il y a plein d'enjeux, plein d'enjeux stratégiques. On a mentionné l'UDAP, peut-être que tu avais quelques questions.
Alors, oui, pour mon travail à l'UDAP, je continue, donc il y a ça en particulier, donc la restauration, les permis de construire, etc. Et puis, il y a aussi la restauration des monuments et le suivi des monuments. Et on a un gros monument État, qui est la cathédrale du Mans.
Oui, assez gros, oui.
Et qui appartient à l'État.
Et qui appartient à l'État.
Ouais.
Les autres églises de la ville appartiennent à la ville du Mans ou à l'évêché pour celles après 1905.
Hein D'accord.
Et on a classé du patrimoine après 1905, patrimoine 20e. Il y a eu quelques églises sur le Mans, dont Sainte-Thérèse à la Cité des Pins et le Christ Sauveur sur la rue de Ruaudin.
Oui, d'accord.
Qui est le Christ Sauveur que je trouve très intéressant parce que c'est une coquille Saint-Jacques du ciel. Regardez bien.
Mais très sympa.
Eh ben, on va donc parler maintenant de l'unité départementale de l'architecture du patrimoine. L'UDAP, des questions assez simples. Présenter un peu cette unité, cette structure et son lien avec la DRAC, ses principales fonctions et vos fonctions à vous.
Alors, l'architecte des bâtiments de France existe depuis très longtemps. Et la DRAC, c'est le ministère de la Culture. On est un tout petit ministère. Vous savez, le ministère de la Culture, c'est pauvre. Et donc, dans la Sarthe, on est très peu de fonctionnaires du ministère de la Culture, puisque la DRAC, l'UDAP, c'est 7 personnes.
Ah oui.
Okay. Il y a quelques personnes du ministère de la Culture sur la Sarthe à d'autres endroits. Il y a des gens qui sont au château de Sablé pour la restauration des ouvrages. Et puis, il doit y avoir 2 personnes aux archives départementales, puisqu'il y a des archives qui sont éteintes. Et donc, c'est tout.
Ouais, c'est pas beaucoup.
Et le reste des troupes sont à Nantes, puisque la DRAC est basée à Nantes, dans la capitale régionale. Toutes les régions, c'est comme ça. Mais les UDAP, malheureusement, en Mayenne, c'est 4 personnes.
Ah oui, c'est encore pire.
Et donc, pour gérer tous les dossiers...
Donc, le nombre de dossiers à voir, ça se fait très bien, c'est du boulot. Et puis, il y a un travail de terrain aussi. Les élus nous demandent beaucoup, puisqu'on donne des avis sur les aménagements urbains, autour d'une église, autour d'un monument. Si une ville a des travaux, ils doivent nous consulter. Et puis, je vous dis bien, aussi le suivi et l'aide aux particuliers dans le cadre, alors c'est pas moi, dans le cas, enfin si, ça peut être moi dans certains cas, des monuments, c'est-à-dire, et surtout les conseillers, comment restaurer leurs monuments. Alors ça se fait aussi avec l'architecte en chef pour les monuments classés et M. Gauthier pour les monuments inscrits.
D'accord.
Et puis, il y a des aides aussi aux particuliers, puisque l'UDAP participe aussi avec l'association de la Fondation du patrimoine sur la restauration des maisons quand il y a des demandes particulières ou sur des maisons qui ne sont pas forcément classées ou inscrites, mais qui sont d'un intérêt extraordinaire, enfin pas extraordinaire, mais d'un intérêt très important.
Qui sort de l'ordinaire.
Et que l'on veut garder aussi pour les générations futures.
Ok.
Bah, merci beaucoup. On continue cette discussion tout à fait passionnante. On va écouter un titre que vous avez choisi. En tout cas, vous avez choisi la chanteuse Ella Fitzgerald.
Pas parlé enfin, ce
soir. Fitzgerald, bien sûr.
Il y a un Z, c'est pour ça.
Ouais. C'est ça. Et Cry Me a River. Okay.
Ah, ça, tu l'as bien dit.
Ça va,
tu l'as
je progresse petit à petit au fur de l'émission, qui était évidemment une chanson culte. Et on se retrouve donc juste après pour continuer cette discussion avec Pascal Mariette. Percée de l'histoire.
Tiens, mais c'est pas vrai!
Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi?
Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Ah ouais?
Ouais.
En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'Histoire.
Eh ben, mon vieux, Pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3, FM Le Mans, ou radioalpa.com, et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire pour son émission Portrait d'Histoire en compagnie de Pascal Mariette, qui, nous, depuis le début de l'émission, nous passionne à raconter un petit peu toutes ces missions, les enjeux autour du patrimoine, des monuments, etc. C'est assez intéressant. On va continuer ces questions-là avec Thomas, qui du coup va commencer à poser 2-3 questions sur le patrimoine, encore une fois, forcément.
Oui. Tout à fait. Alors, j'avais trouvé une superbe accroche. En fait, c'était en 2020, le député La République En Marche, Damien Pichereau, avait annoncé une aide exceptionnelle pour rénover la cathédrale, la chapelle axiale de la cathédrale, là où il y a les anges, à hauteur de 2,5 millions d'euros. Et ça ne s'est pas fait. Il y avait eu beaucoup de titres de fait à l'époque, mais rien de plus. Bon. Et sachez, parce que je regardais pendant la coupure, sachez qu'il ne se représentera pas.
Oui, ouais, j'ai
2022. Bon, voilà, ça arrive.
Ouais, j'ai pas jugé, je ne sais pas, mais toujours est-il que quand même les travaux de restauration de la chapelle axiale vont se faire assez vite maintenant. C'est-à-dire qu'il y a eu la découverte il y a plus de 20 ans des anges musiciens qui se trouvaient situés au-dessus. Et donc, ces anges musiciens, c'était vraiment une découverte magique quoi, pour une cathédrale. L'imagerie du 15e, c'est quand même formidable, quoi. 14-15e, fin 14e, je crois. Et vraiment, donc, ça, c'était top. Donc,
qui ont été exploités sur la Nuit des Chimères.
Mais il faut savoir qu'il y a sur la cathédrale beaucoup de travaux, la drague, quasiment 1 million par an.
1 million par an, oui.
Mais parce que vu le monument.
Le buffet d'orgue qui a été restauré, c'était 900 000 euros.
Ah oui.
Et l'État le prend en charge à 100%. Tous les travaux sont pris en charge à 100%. Et donc, il y a des fois des priorités qui se passent devant la restauration. Et je sais que vous assistez à des réunions, mais sur cette chapelle basse, si vous allez voir. Pas la chapelle basse, la chapelle d'Axe. La chapelle basse est en dessous, la chapelle d'Axe. Et donc, sur la chapelle d'Axe, où il y avait les anges musiciens. Si vous allez voir, il y a eu des sondages, il y a eu des fouilles qui ont été réalisées. On a trouvé des choses assez intéressantes, d'ailleurs, sous le dallage. Mais si vous regardez bien sur les murs, aujourd'hui, vous allez voir des petits sondages, et vous allez voir des visages apparaître. Vous allez voir quelques dessins, des couleurs. Et donc, on sait qu'il y a des choses. Alors, se posent des problèmes quand on découvre des choses comme ça, mais on essaye de les analyser. Aujourd'hui, on est déjà, quand il y a eu les anges musiciens, on était déjà dans cet esprit. Il y a deux choses. Il y a restauration ou restitution. Et donc aujourd'hui, on est plutôt toujours dans la restauration et très peu dans la restitution. S'il nous manque 2 mm de trait, on va faire de la restitution. Mais s'il nous manque la moitié du personnage en entier, on ne va pas restituer le personnage en entier. Parce qu'on ne sait pas comment était, par exemple, si on a que sa tête, si on ne sait pas comment étaient ses pieds, on ne va pas dessiner ses pieds. Et si vous regardez bien les anges musiciens, en rentrant, vous avez d'abord les chanteurs, enfin les gens qui donnaient la voix, et ils sont souvent effacés, ils n'ont pas été restitués. On les devine, parce qu'on avait des traces de la peinture, on devine quelques mouvements, on voit la forme des anges, mais on ne les a pas en détail. Et plus vous allez loin dans la chapelle, plus vous allez dans le fond de la chapelle, vous allez vous rendre compte que les anges sont pratiquement complets. Alors peut-être qu'il manquait effectivement à l'époque 1 cm de trait. Mais quand il manque 1 cm de trait, on le devine quasiment. C'est comme pour la restauration d'un tableau.
Bien sûr.
Et donc aujourd'hui, on est dans la restitution. Non, pas dans la restitution.
La restauration.
Et donc en bas, on va être dans la restauration. Et il faut faire des choix. Et ces choix, on a des dessins géométriques. Alors ça, peut-être qu'on peut les mettre à la suite. Et donc, c'est l'architecte en chef des monuments historiques qui décide.
Qui décide encore.
Et donc, cette décision, je crois qu'elle est quasiment faite. Donc, on va pouvoir engager des travaux pour la restauration de l'ensemble. Mais surtout aussi des vitraux. Et sachez que les vitraux, ça arrive vite.
Ah oui, oui.
Je dois aller accrocher le panneau bientôt.
Waouh, super.
Donc, la différence entre restauration et restitution. Restauration, on essaye de deviner au plus proche la vérité.
De remettre les couleurs. Par exemple, on a restitué des peintures. On a restauré des peintures dans la cathédrale, lapsus, juste à côté, autour du vitrail du Saint-Julien, donc à l'entrée. Si vous allez voir, aujourd'hui, on distingue bien le diable qui était effacé.
Oui, ouais, tout à fait.
Et on a restauré la peinture, on lui a redonné un peu de vigueur, mais on n'a pas restitué ce qu'on ne connaissait pas.
C'est la cathédrale de Chartres, je crois.
La cathédrale de Chartres, tout à fait.
Ils avaient décidé de restituer toute la polychromie de la cathédrale.
Restituer ou restaurer, je ne sais pas.
Restituer,
donc c'était sûr.
Oui, ils ont refait les...
Ouais, de la même couleur.
Et puis après,
les couleurs de.
Parce que c'est vrai que les cathédrales, en tout cas, c'était coloré à l'intérieur. Ça, on peut se dire, on arrive, c'est un petit peu gris.
La restitution peut se faire si on a des photos.
Ouais.
Si on a des photos ou des dessins très précis ou de l'imagerie très précise. Ça, c'est possible. Ça nous aide beaucoup pour la restauration des façades, par exemple. Mmh. Et la restitution aussi des façades. Ici, dans le bâtiment où vous êtes, c'était l'hôtel de Courtardy, de souvenirs. Et si vous regardez sur la façade en sortant, il y a eu des baies d'une chapelle de fête. Mais à la place, si vous regardez bien, on voit où étaient les croisées, les fenêtres de la Renaissance. On pourrait les restituer. Parce qu'on en a la connaissance. Et en plus, il y a une très belle gravure de Louis Moulin qui donne l'image de ce qu'était le site.
Qui a fait un ouvrage entier de gravures. Je crois que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. C'était ma grand-mère qui m'a passé ça. Avec énormément de gravures dans le vieux Mans et tout. C'est assez extraordinaire. Je pense que je vous le montrerai.
C'est des très beaux dessins. Et qui permettent. Et surtout, on a sur le Mans et sur le secteur sauvegardé énormément d'iconographie qui permet de retrouver l'espace.
Super. Donc, du coup. Pour tous les projets de restauration qu'il y a sur la ville, est-ce que la ville bénéficie des aides de l'État? Et si oui, lesquelles?
L'État se charge de la cathédrale à 100%, donc la ville ne participe pas du tout, c'est des travaux d'État. Par contre, la ville a fait de très belles restaurations, et là, c'est aussi mon but, mon travail d'élu. Il y a eu dernièrement la couture, avec les toitures, ça c'est nécessaire, c'est déjà le clos, pour pas qu'il fuit en dessous, et là, la ville a mis beaucoup d'argent. Et là, la ville fait appel à subvention de la part de l'État, donc c'est le cas. Alors généralement, pour un monument, l'État verse 40% de subvention, c'est la DRAC, donc les commissions. La ville en paye 35% et le département 10% et la région 15%. Ça se passe à peu près comme ça.
C'est réparti.
Et c'est comme ça qu'on a restauré aussi... grand frais, puisque ça a coûté très cher, la visitation, la chapelle de la visitation, que je vous conseille
d'aller. Qui est magnifique. Alors là, franchement.
Pour l'art baroque, c'est certainement la plus belle église ou chapelle, on va dire, du Grand Ouest de la France. On m'a toujours dit ça. Et c'est vrai que c'est un très, très beau, très, très belle restauration. Et puis là, la ville du Mans a récupéré un retable. Alors ce retable était situé dans une chapelle qui était pattachée. Albert Mignon, pardon. Et donc, ce retable a été récupéré, il va être remonté et remis dans le transept sud de la visitation.
De la visitation.
Il a retrouvé sa place d'origine. Ça, c'est formidable de pouvoir remettre le mobilier à sa place. Donc, c'est encore des travaux. À l'intérieur, c'est jamais fini.
On n'en finit jamais.
Heureusement.
Oui, ah bah oui.
Et puis, il y a d'autres projets aussi, puisque la ville... réussi à faire voter un budget qui n'existait pas. C'est-à-dire que tous les ans, la ville va mettre 50 000 euros dans la restauration des œuvres d'art qui sont dans les églises. Et donc, chaque année, ça représentera à peu près 3 ou 4 tableaux. Il n'y a pas que des tableaux. Il peut y avoir des bas-reliefs, des éléments sculptés, mais vraiment des œuvres d'art.
Des vitraux.
Des églises. Ça peut être des vitraux. Ça peut être tout ce patrimoine qui est à l'intérieur des églises. Alors par contre, ce qui est à l'intérieur de la cathédrale est pris aussi en charge
par l'État.
D'accord, ok, très bien. Est-ce que vous travaillez avec des associations qui vous aident sur le terrain?
Oui, alors moi par exemple, c'est assez amusant parce que j'ai quitté Concordia, qui est une association de jeunes qui viennent du monde entier, qui ont des missions. Donc on a fait, dans le cadre municipal et professionnel, on a fait travailler Concordia cet été sur la restitution au sol de l'ancienne église de Gourdaine qui se trouvait au pied de la muraille avec des petits rondins. Pour montrer l'endroit où était l'église et, qui a disparu mais qui est encore présente en élévation contre le mur romain. Et puis moi j'ai travaillé au niveau professionnel depuis des années avec Concordia sur le site de Chéré, donc à Aubigné-Racan, pour tous les ans faire un petit coup de restauration. des murs romains qui s'abîment avec les intempéries, parce que c'est quand même des fouilles qui ont été laissées à l'air libre.
À l'air libre, ouais.
Et donc, c'est un travail de maçonnerie, de reprise des petits moellons, pour que le site reste toujours propre, et ça fait déjà une dizaine d'années que ça fonctionne. Concordia a aussi travaillé sur des murs en pierre sèche à Fresnay, sur des remontées des murs à côté d'églises classées, je pense, dans le sud de Sarthe, j'ai perdu le nom de la commune, vous m'en excuserez, Mareuil-sur-Loire. Voilà, il y a, par exemple, c'est une association, il y en a d'autres aussi, dont la Fondation du patrimoine, dont Maison Paysanne de France, dont les vieilles maisons françaises, dont Demeures historiques. C'est des gens qui sont très présents à nos côtés pour la restauration. Les amis des vieux moulins, je suis sûr que j'en loupe pas. Je dois en oublier, mais c'est quand même des gens qui sont très présents à nos côtés.
Ouais. Il y a un gros réseau
d'associations de restauration.
Ouais. Sans oublier le Mansart, par exemple.
Oui, Mansart. Ouais.
Sur la cité Plantagenet.
Bien sûr, oui.
Tu voulais peut-être... oui.
Non, t'as dernière pas. Question, vas-y. Juste une dernière question. J'aimerais revenir sur le plan de sauvegarde. Qui le fixe, ce plan?
Alors, c'est la ville qui le met en route, mais alors, c'est fait par un appel à candidature. Hein, c'est une société, c'est une boîte privée qui va travailler. Donc, il y a un travail à la maison, ponctuellement, de reconnaître ce qui est intéressant. Et puis, le service urbanisme, évidemment, de la ville.
D'accord, ok. Je croyais que c'était l'administration, c'est non, pour non, ça non, qui faisait ça.
Il y a le financement État, il y a l'aide de la DRAC aussi pour la ville, parce que c'est un coût.
Oui.
Payer bah ce cabinet d'études, comme pour une, quand vous créez une AVAP, la compagnie, par exemple, sur les petites cités de caractère, ils ont été obligés de faire à l'époque des MPPUP qui sont devenus des AVAP, maintenant des SPR. On change de nom, on change de ministre, mais c'est un peu asphyxiant pour les petites communes parce que c'est un super coût, c'est un coût énorme. Bon, l'État aide, mais c'est vrai que pour un administré, ça se voit pas. Vous mettez 50 000 euros dans un aménagement urbain. L'habitant le voit, mais quand vous mettez dans un document écrit que personne ne voit,
forcément,
ils vont voir juste pour au moment où ils font des travaux, ça ne se ressent pas. On ne pense pas que c'est un coût. Il est vrai que dans le temps, quand j'ai commencé à travailler à l'équipement, les missions de l'État étaient beaucoup plus larges et l'État faisait beaucoup de choses pour les petites communes. Hein. C'était tout à fait différent. Hein. Aujourd'hui, on a voulu un peu la disparition aussi des services publics. Hein. Il y a eu 2008 qui a été dur pour moi, puisque j'expliquais que je travaillais à Fresnay dans une subdivision de l'équipement. Donc, on était très proche des élus, très proche du terrain. Et on nous a dit, bah, de toute façon, c'était la mode, 2008, sous Sarkozy, de dire, bah, les fonctionnaires...
Il y en a trop.
Ouais.
Et bah, on nous a regroupé à Pexan. Donc, je savais que j'étais à Pexan. C'est pour ça que j'ai déménagé, j'habite en Rouen. Hein, parce que c'est pas toujours évident, freiner le Pexan, c'est plus d'une heure dix.
Pour le faire, quoi. Ouais. Ouais.
Donc, aller-retour, ça fait 2h20. Et dans la semaine, c'est plus d'une journée dans la voiture. Et donc, c'est un peu dommage, c'est vrai que ce service de terrain, mais c'est aussi des missions qui sont parties vers le privé, je ne suis pas contre, hein, mais c'est vrai que ça coûte aux communes aujourd'hui, ça coûte certainement plus cher quand on était présent, mais à la fois, c'est les mêmes élus qui râlent aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus de service public. Mmh. C'est souvent ceux qui ont voté, d'ailleurs.
Ben ouais,
ça, c'est ma petite...
Bref.
La petite pique, mais petite totalement méritée parce que c'est une réalité.
On a bougé, voilà. C'est ça, un travail de terrain.
Tu voulais peut-être évoquer rapidement le chantier
Oui, peut-être, ouais. Est-ce que ça se trouve, ça n'a totalement rien à voir, mais si vous avez des missions dans le futur chantier archéologique qui est prévu devant la mairie?
Alors, devant la mairie, les missions, là, c'est le suivi. Déjà, il y a le SRA. Le SRA, c'est le service régional d'archéologie, qui dépend de la DRAC, qui sont mes collègues. Et à chaque fois, par exemple, que nous, même sur le terrain, on est sur le terrain, eux, ils sont à 200 km. Donc... on est très présent, effectivement, quand il y a des fouilles, parce que ça nous intéresse déjà, culturellement, c'est vachement important. Mais c'est aussi nous qui alertons le SRA dès qu'il y a une découverte qui peut être fortuite ou à un endroit, je pense. En particulier, quand il y a eu les travaux de piquetage sur le café du Square, là, juste à côté, où mes collègues de la DRAC ne croyaient pas du tout qu'on y retrouve le mur romain. Et moi, j'en étais persuadé. Donc, quand ils ont commencé à piquer, j'étais au pied du mur. Et donc, tout de suite, je les ai appelés. J'aurais dit, les gars, venez vite, hein, parce que si.
Ça arrive.
Le mur romain, il est là. Ils n'y croyaient pas.
Mais d'accord.
Comme quoi.
Voilà.
Et donc, sur la place Saint-Pierre, la place du Halet, c'est vraiment une volonté municipale de savoir, de connaître notre histoire. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment une mission importante de la ville. Et je crois que ça va passionner les manceaux. Ça va...
Sans doute.
Un chantier de fouilles sur le Mans toujours passionné.
Oui, forcément. Oui.
Et puis là, ça va me permettre de rebondir sur la suite du chantier de fouilles au pied de la cathédrale. Je me permets un peu parce que ça, c'est aussi un très gros travail de la mairie. Donc, il y a eu... Alors, j'explique aussi, on a très mal expliqué pourquoi on a enlevé les talus de terre et le fameux Jinko. Alors le Jinko, à l'époque, c'est pas le maire qui voulait là-bas, c'était à l'État, le terrain de l'autre côté était à l'État à l'époque, maintenant il est municipal. Mais c'était surtout pour assainir la fameuse chapelle basse qui était sous la chapelle des anges musiciens. Donc en enlevant les talus d'artillerie qui avaient été faits au XVIIe siècle, eh bien, on a assaini la cathédrale puisque la mérule commençait à attaquer les anges.
Ouais. Ah ouais, d'accord.
Donc aujourd'hui, on a une cathédrale assainie, mais surtout ce chantier de fouilles nous a permis de découvrir le mur sainte romaine, une tour romaine qui avait disparu. On savait qu'il y avait une tour, la tour Saint-Michel, mais on ne savait pas qu'elle était octogonale, on pensait qu'elle était ronde. Eh bien non, elle est octogonale. Ça nous a permis de faire des fouilles au pied de la cathédrale, qui nous a permis de faire quasiment 2000 ans d'histoire. On a trouvé des choses qu'on ne savait pas, il y avait des choses qu'on ne connaissait, par exemple la chapelle du cardinal de Luxembourg, qu'on connaissait, mais on ne savait pas que sous cette chapelle du cardinal de Luxembourg, il y avait aussi une chapelle qui remontait au 12e ou 13e siècle, qu'on ne connaissait pas, mais on connaissait la forme aujourd'hui. Donc il y a plein de choses qui ont disparu. Alors moi ça m'intéresse parce que j'ai beaucoup travaillé par exemple sur le bouquin sur la cathédrale, où j'ai fait un petit dessin qui permet de reconstituer, de restituer ce qui était, mais aujourd'hui il y a déjà deux dessins qui sont à reprendre parce que depuis les fouilles,
il y a eu des nouveautés,
actualisations,
on a appris des choses. Voilà. Et donc c'est super. Et donc les fouilles, ça permet de vraiment de comprendre. Et puis surtout la place Saint-Pierre, c'est le palais comtal.
Oui.
C'est certainement un ancien forum romain. C'est
on a trouvé des choses.
Il y a des grosses trombes.
Ce chantier de fouilles, il sera ouvert aux bénévoles ou pas? Parce qu'on avait vu découvert que.
Oui, ben à mon avis, je pense que.
Je pense qu'il y aura des visites guidées, d'organiser en fonction. Et puis surtout, il y a des présentations qui sont faites après, toujours. Alors, pour le pied de la cathédrale, maintenant, il y a eu l'analyse, le rapport de fouilles qui vient de donner. Donc maintenant, on va s'engager à faire un jardin archéologique pour qu'on puisse comprendre comment ce quartier entre le mur d'enceinte médiéval qui entoure la cathédrale et le mur romain qui est chevauché par la cathédrale, essayer d'expliquer l'évolution de ce quartier et qu'on puisse se balader à l'intérieur et voir la cathédrale sembler d'une autre façon.
Oui, d'un nouvel angle.
De la cathédrale.
Ça doit être impressionnant.
C'est vraiment impressionnant. Vous voyez que c'était aussi une forteresse depuis l'extérieur.
Et oui.
Ça promet d'être intéressant, en tout cas,
à faire suivre.
De très près, comme souvent.
Des beaux projets.
Mais oui, c'est de très beaux et très gros projets en même temps. Je vois que le temps file, on va peut-être passer au portrait d'histoire, le petit jeu sympathique de fin d'émission.
Et pas chinois.
C'est vrai qu'on pourrait aborder tellement encore de sujets, mais le temps passe. Portrait d'histoire, je cherche le jingle, il est là, c'est parti, c'est le portrait d'histoire.
Alors là, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout.
Le portrait d'histoire.
Un petit mot ?
Merde.
Voilà. Et d'où venez-vous ?
Merde.
Très bien.
Alors Pascal Mariette, donc vous allez répondre au portrait d'histoire en espérant que ce soit autre chose que merde, vous l'avez compris dans ce jingle. C'est des questions toutes simples, c'est comme un portrait chinois mais en version historique. Donc première question, vous étiez un personnage historique, vous seriez
qui ? Un personnage ?
Oui.
Pas de prétention.
Si vous deviez incarner.
Je sais pas, gamin, qu'est-ce que je pensais. Je sais pas. Non, je suis même pas un guerrier, je pense pas. Bien que.
Un plantageur.
Un romain.
Un érudit. Un sénateur.
Ouais, un truc comme ça. Non, peut-être un humaniste. Un humaniste. Un ermite, tiens.
Un ermite.
Ouais, je suis plutôt un peu ermite de temps en temps, plein désert ou en fin fond de la montagne, des fois, ça j'aime bien, moi.
Eh bien, réponse acceptée. Si vous deviez vivre à une période de l'histoire.
Ah, il y a des périodes qui sont assez passionnantes. On parlait des Plantagenets, ça va être assez passionnant.
Ouais, surtout. Ouais.
Moi, je suis allé beaucoup de fois en Égypte.
L'Égypte antique. Ouais.
Ça m'a impressionné l'architecture qu'on pouvait faire.
Le berceau de l'humanité.
C'est impensable encore aujourd'hui.
L'Égypte antique.
L'Égypte m'a toujours.
L'Égypte.
Ça, c'est vraiment un sujet qui fascine encore énormément aujourd'hui.
Je suis allé trois fois en Égypte.
Ah, c'est des extraterrestres.
c'est des extraterrestres.
Je suis allé trois fois en Égypte et à chaque fois, et puis toujours en voyage désorganisé parce que je porte mal les voyages organisés, les cars.
La pure découverte.
Je visitais les temples généralement, des moments où tout le monde était en train de manger sur les bateaux. Et pour moi, c'était vraiment une découverte passionnante. Il fallait que j'aille trois fois pour comprendre. Vraiment, c'est un endroit magique.
Et je pense qu'on peut retourner même 50 fois.
Et ce ne sera jamais assez.
C'est assez impressionnant. Si vous étiez un monument historique.
Lequel que j'ai
Et alors là, voilà,
la petite chapelle Saint-Frimbaud dans la Sarthe.
D'accord, voilà. Je ne connais pas. C'est où exactement?
C'est Mimi comme tout.
D'accord, ok.
Elle vient d'être restaurée. Il y a un super petit moine à l'intérieur en terre cuite. Il y avait le tombeau de Saint-Frimbaud. C'est une toute petite commune qui a été rattachée à Saint-Georges de Lacouy. Et vraiment, pour moi, c'est la plus vieille église de la Sarthe.
D'accord.
C'est un tout petit truc, mais qui est mimi comme tout et qui représente bien l'architecture.
C'est quoi le nom du village? Saint-Flimbeau.
Saint-Frimbaud.
À Saint-Georges de Lacouy.
Oui, ouais, tout à fait.
Et ben, le coup de cœur, c'est noté. Donc, on ira peut-être voir ça, pourquoi pas un jour. Si vous étiez un costume historique, bon, ça c'est un peu technique, mais...
Je sais pas, nu.
D'accord. C'est un costume historique, pourquoi pas.
Oui, c'est bien aussi.
Si vous étiez une invention historique.
Parce que dans les costumes,
il y a beaucoup de choses.
J'aime pas être embarrassé par des trucs.
Non, autant faire simple. Hein.
Homme préhistorique, oui.
Ouais.
Alors, une boîte bête, c'est bon.
C'est ça.
Une poêle à rigueur.
Ouais, si vous étiez une invention historique.
Une invention historique, il y a quand même des choses...
Ah, il y a eu des belles choses.
Des belles choses, ouais. Comme ça. Il y a la roue. Hein,
la roue.
C'est quelque chose d'extraordinaire quand on sait qu'il y a des... Apparemment, en Amérique du Sud,
oui,
on connaissait
les civilisations précolombiennes, ils n'avaient pas de roue.
Ce qui est quand même...
Ce qui paraît simple aujourd'hui, bah...
C'est la roue du moulin, c'est la roue c'est du le fruit char, de... c'est la roue de plein de choses. C'est la...
Ta bagnole.
La force, la...
Et puis, si vous aviez... Alors, ça, c'est pas forcément historique, mais si vous aviez un pouvoir...
Un pouvoir?
Ouais, un pouvoir.
Non, vous voyez ce que ça donne, Poutine. Je sais pas.
Voler, voyager dans le temps, se téléporter.
Dans le temps, oui.
Bah non, mais voilà, là t'as orienté, parce que c'est la réponse de tous les historiens qu'on a reçus, c'est forcément ça.
J'allais même pas jusque-là.
C'est forcément ça.
J'étais parti dans le pouvoir de la personne.
Oui, non, super pouvoir, oui,
j'aurais dû dire. Super pouvoir, oui, peut-être remonter dans le temps.
Oui, ça c'est vraiment la réponse que tout le monde donne.
Pour l'instant, on a eu deux réponses qui reviennent souvent, la roue et super
pouvoir.
La roue, on l'a eu déjà.
Oui, la roue, on l'avait déjà eu.
Ah bah tu vois, moi j'écoute pas l'émission.
Je pense qu'il assistait pas aux mêmes émissions que nous. Une autre émission en parallèle, tu sais,
dans ma tête.
Et ben merci beaucoup. Je vois que oui, il est
ouais,
complètement l'heure. Merci beaucoup, Pascal Mariette, d'avoir été avec nous. C'était passionnant.
Très très passionnant.
Je pense qu'on pourra sans problème vous réinviter pour évoquer plein d'autres sujets. Donc c'était super passionnant. Merci.
Bah, en direct du site de fouille devant.
Oui, voilà. Spécial.
Merci carrément. À vous. J'espère qu'on en a parlé un peu tout. Mais s'il y a une chose aussi, j'aurais aimé en tant qu'élu. On travaille aussi sur les quartiers, parce qu'il n'y a pas que dans le Mans. Tout à l'heure, j'y pensais dans ma petite tête. Mais actuellement, il y a une exposition, par exemple, au Bruyères.
Sur l'évolution du quartier depuis les années 60.
Et dans tous les quartiers, j'ai parlé effectivement des églises, Sainte-Thérèse, etc. Mais disons que tous les quartiers du Mans sont intéressants.
Dans leur évolution.
La fameuse cité des gamelles.
Exactement. Et après, on peut aller de l'autre côté. Il y a la cité du Maroc avec les cheminots, la rue de la collectivité. On peut faire le tour de la ville comme ça. Saint-Pavin de la cité, les anciennes villes, la Croix-Georgette. Allez voir l'église de la Croix-Georgette. Il y a des tas de trucs partout, dans tous les quartiers. Et même aussi, l'histoire, elle se fait... On est au 21e siècle. Moi, je suis né au 20e siècle. Mais déjà, regardez ce qu'on a, le XXe siècle a laissé.
Mais c'est dingue. Hein.
En termes de traces.
En traces architecturales, il y a des architectes. La gare du Mans.
Rien que ça.
Alors, regardez, il y a même la gare sud, ça vient presque. Il y avait le trait de Daniel Saint-Aignan, qui est l'architecte qui a fait ce bâtiment qui voulait ressembler au TGV. Est-ce qu'on le garde comme ça? Est-ce que c'est historiquement, il faut le garder? Je trouve ça intéressant. Il avait fait du bleu métal et de l'argent du TGV. On oublie vite, l'histoire passe. Mais ça que 40 ans, même pas.
Et puis ça nous apprend surtout aussi lever les yeux quand on circule dans la ville, à regarder un petit peu tout ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à passer devant, se regarder.
On pourrait parler aussi, je pense, de la STAO, qui est un projet aussi de la ville de mettre en valeur cette autogare.
Et ben merci beaucoup en tout cas, Pascal Mariette.
Peut-être une prochaine émission.
Avec grand plaisir, ce serait passionnant. On se retrouve la semaine prochaine, nous, pour une émission toujours Portrait d'Histoire, avec cette fois-ci, ce sera
Simon
Choulet, qui va nous parler d'escrime médiévale.
Escrime artistique médiévale.
Artistique, c'est vrai, parce que lui,
contrairement aux AMHE.
Exactement. Donc, à la semaine prochaine. Merci.
Une continuité entre les épisodes.
C'est ça, l'épisode 2. Et bonne soirée à toutes et à tous.
Bonne soirée.
À la semaine prochaine.
C'est une révolte?
Non, c'est rien. C'est une révolution.
Je vous ai compris.
I have a dream.
Libre la nation !
Libre la nation !
Rentre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
That's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir! Il faudrait groupir! Qu'est-ce qu'il dit?
Il dit groupir!
But alors, you are French?
Et toc, remonte ton slibar, Lothar!
Monsieur! Un sarrasin!
Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube. Car l'aube viendra.
La percée de l'histoire.
La percée.